Et maintenant, c'est plaider le faux pour avec Jean-Michel Arjure.
Alors, notre pratique interprétative, 1967. Notre pratique du dire, 1972. L'emploi du pronom possessif interroge. Cela sous-entend qu'il y a des pratiques, sans quoi l'interprétation se réduirait à une technique. Elle est donc personnelle. Pour chaque analyste, pour une communauté, puisque ce « nous » délimite un ensemble et logique oblige des analystes qui n'y seraient pas inclus. Dans la direction de la cure en 58 et la méprise du sujet supposé savoir en 67, Lacan épingle les psychanalystes d'aujourd'hui. Trahison, carence. Les mots sont forts pour ces psychanalystes qui réussirent à oublier la découverte de l'inconscient, pas moi. La principale critique vise la relation d'objet promue par ces psychanalystes d'après-guerre, alors même que Freud avait fait du dit objet un représentant, un semblant. Cette réduction du signifiant du désir, le phallus, à l'objet de la demande n'est pas sans conséquences politiques, puisque cela conditionne l'acte du psychanalyste. Lacan met l'accent sur la réponse de l'analyste à partir de sa position dans le transfert, ne satisfaire aucune demande. Il prend ainsi le contre-pied de l'analyste d'aujourd'hui, qui se donne en pâture dans cette effusion imaginaire dont il est l'oblat. En s'introduisant dans le fantasme, l'analyste dégrade le message de transfert. Il rabat ce que le sujet impute d'être à l'analyste sur une relation à je et à moi avec son patient et il en reste au pied du mur de la tâche d'interpréter. Alors Lacan met en exergue la question du manque à être qui cause le désir mais échappe au sujet. Dans la direction de la cure, il revisite les cas de Freud et prend appui sur l'existence du désir dans le rêve pour affirmer qu'il ne se réduit à aucun objet. Le désir ne se saisit que dans l'interprétation, soit dans les dits du sujet, d'où son caractère instable et douteux. Dans la méprise du sujet supposé savoir, Lacan pointe un autre écueil qui fait courir à chacun le risque d'être un psychanalyste d'aujourd'hui, lorsque l'interprétation donne toute satisfaction. Pas au psychanalysant, mais avant tout au psychanalyste qui se couvre de n'agir que pour le bien. Cette allusion au bien, fondement de l'éthique propre au discours du maître, indique la sortie assurée du discours analytique pour ceux qui prendraient une vérité pour le tout et s'en satisferaient. D'où les expressions qui épinglent ce psychanalyste autosatisfait et qui marche droit, conformisme, héritage et ferveur réconciliatrice. Le désir d'être le maître contredit le fait même du psychanalyste, dit Lacan, dans Radiophonie. Il ne s'agit pas tant d'être le maître de son patient que de la pente possible à venir redoubler le discours du maître propre à l'inconscient. C'est là qu'on touche du doigt la possible carence du psychanalyste s'il se cantonne au déchiffrage, à la tâche de traduction qui spécifie l'interprétation freudienne. On a fini par s'habituer à l'interprétation. N'est-ce pas là une indication que les signifiants de la psychanalyse, les publications de Freud, ont alimenté le discours commun? Lacan enfonce le clou en 1976. En disant que là où Freud croyait porter la peste, le public s'en arrange. La question concerne donc la force vive de l'interprétation. Qu'il s'agisse de l'automatisme de répétition ou de l'inconscient qui travaille et interprète indépendamment du psychanalyste, Lacan fait entendre qu'il ne s'agit pas de les laisser fonctionner seuls. Notre pratique du dire ne doit-elle pas rentrer dans le concept de la répétition en tant qu'elle n'est pas laissée à elle-même? Non seulement l'analyste fait partie du concept de la répétition, mais à l'instar de ce qu'il a aussi fait observer de l'inconscient, sa pratique la conditionne. D'où l'importance qu'il ne s'en tienne pas aux vérités produites dans la cure, qui ne s'habitue pas avec son patient à cet inconscient en exercice, mais qu'il vise à produire du nouveau. Qu'il puisse se dire quelque chose sans qu'aucun sujet le sache, voilà ce que le psychanalyste ne doit pas épargner au psychanalysant. Encore faut-il qu'il ait une petite idée du rapport que la vérité entretient avec le réel, soit du dire d'où il la commande. C'est pourquoi Lacan déplace l'accent de l'interprétation vers le dire. Si le bien fondé d'une interprétation se reconnaît dans le matériel, les dits qui viennent à sa suite, c'est parce qu'elle touche à un réel qui déchaîne la vérité, d'où l'idée qu'elle n'est vraie que par ses suites. Si Freud découvre le sens sexuel de la structure, Lacan a l'idée qu'il s'arrête là, même si l'on trouve dans son œuvre le soupçon que les fictions tentent de rationaliser l'impossible du non-rapport. Le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. C'est là que Freud a mis l'accent. Il se perd dans le rapport sexuel. On peut en effet donner un sens sexuel à tout. On peut croire que c'est celui de l'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. C'est à s'y perdre. Pour le sujet, mais également pour l'analyste, s'il n'en mesure pas déjà pour lui-même la limite. Il a sur ce point des choses à dire à son analysant, et ce qu'il a à dire est de l'ordre de la vérité. Étonnant ce propos de Lacan qui affirme pourtant que nul progrès n'est à en attendre. Il s'agit plutôt d'un savoir y faire, moins avec la vérité elle-même qu'avec ce qui vient y faire limite, cette digue du réel. Faire l'expérience de la limite de la vérité peut donner un aperçu de cette perte qui est le réel lui-même de l'inconscient. C'est possible dans la mesure où la vérité tient au réel, par l'impossible à la dire toute. Le dit ne va pas sans le dire. Il revient au psychanalyste la tâche de montrer la faille de ce couple rêvé, mais pourtant mal assorti des semblants et du réel. En effet, dit Lacan, le dire ne se couple au dit que d'y exister. C'est ainsi qu'au fil de la cure, le sens sexuel finit par se réduire au non-sens du rapport sexuel, lequel est patent depuis toujours dans les dits de l'amour. Alors la perte, le non-sens, autant de façons de nommer la faille dont se dit l'être. Alors si le doigt levé du Saint-Jean de Léonard illustre l'interprétation, un dire sans énoncé, apophantique, c'est bien dans la mesure où il montre plus qu'il ne dit cet horizon déshabité de l'être, cette chute que le psychanalyste relaie, d'y faire figurer quelqu'un. Plaider le faux pour savoir le vrai, dit l'expression. Mais quand Lacan dit qu'il s'agit de plaider le faux dans l'interprétation, il souligne les équivoques et l'étymologie des mots de la langue qu'il lie entre faux AUX, faux AUT, falloir et faillir. Il met ainsi l'accent sur le falsus, le chu, soit ce qui tombe à côté, et qui délimite l'objet-cause dont l'analyste se fera semblant d'être. Là où le psychanalyste d'aujourd'hui pouvait s'offrir comme objet à se mettre sous la dent, là où dès lors qu'on parle, une interprétation donnée peut venir sustenter l'analysant, voire l'analyste, Lacan nous rappelle que c'est pas ça. Lorsqu'il souligne la fonction d'effacement du sujet propre à l'inconscient, nous entendons bien sûr l'impossible identification du sujet par les voies du signifiant, mais aussi la façon dont l'inconscient lui-même est consubstantiel à cette réalité qui fait couverture du réel. D'où le « c'est pas ça » qui ponctue les tentatives du sujet pour se dire. Notre pratique, dit Lacan, implique cet ordre d'indétermination que constitue le rapport du sujet à un savoir qui le dépasse. Si la castration est ce qui conduit à l'analyse, elle en est également le résultat. C'est sans doute ce qui peut sinon se révéler par l'interprétation, du moins se réveiller le temps d'apercevoir ce réel insu. Car le psychanalyste se heurte à ce dont il a largement été question lors de cet après-midi de travail rêve et cauchemar, soit au fait que l'inconscience est très exactement l'hypothèse qu'on ne rêve pas seulement quand on dort. Pourrait-on dire que l'interprétation analytique vise à nous sortir de nos rêves, ne serait-ce qu'un laps de temps ? Peut-être bien. Mais alors serait-elle si efficace que cela quand nous cédons si vite au désir de dormir ? Lacan souligne que l'inconscient sait de ne pas se rappeler de ce qu'on sait. Et poursuit-il, dire « je m'en rappelle » revient à « je me rappelle à l'être ». Qu'est-ce qui peut faire alors que notre pratique ne se réduise pas à du bavardage ou à une escroquerie ? Bluffer, faire scier les gens, les éblouir avec des mots qui sont du chiqué, dit Lacan. J'ai l'idée que cela pourrait tenir au fait que l'on sache que l'on s'est réveillé, ne serait-ce qu'un court instant, tout comme cette marque que laissent certains rêves et qui font qu'en un éclair, on se dise « tiens, j'ai rêvé ». Voilà.
Merci Jean-Michel Arjure.